to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
The FM band is from 88 megahertz up to 108.
You've got this frequency. We're going to call you CKUT. You've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio.
Very impressive.
You can sit on the road and it looks like we pick up CKUT, clear as a bell.
Fascinating. Your analysis seems logical.
CKUT is on the air.
C'est le 4 août 2021, vous écoutez Audio Smut sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je m'appelle Mycelium, et pour le mois d'août, je vais explorer le mythe de la nymphe, en concordance aussi avec la question sociale de l'inceste. Je savais pas exactement comment parler de ça adéquatement, en dedans d'une heure, de façon vraiment purement théorique. Donc, je me suis dit qu'une mise en contexte culturel serait une bonne comme porte d'entrée dans ce sujet-là. J'ai choisi des œuvres qui sont extrêmement connues, que probablement la plupart des auditeurs vont avoir au moins un point de connexion avec ces œuvres-là, pour bien justement aller souligner le fait que la question de la bisexuelle en enfance, et particulièrement peut-être la figure de la nymphe et l'inceste par fille, celui que je vais explorer aujourd'hui, est comme complètement imbriqué dans la culture d'une façon qui est historiquement fusionnelle. Puis je fais une certaine étude comparative dans le sens où j'analyse ces œuvres-là en conversation les unes avec les autres, même si elles viennent de contextes géopolitiques et historiques vraiment différents. Donc, ces trois œuvres-là, c'est Lolita de Vladimir Nabokov, Melody Nelson de Serge Gainsbourg et Putain de Nelly Arcan. La nymphette est décrite par Nabokov comme une jeune fille entre 9 et 14 ans. Mais c'est pas une jeune fille comme les autres, c'est une jeune fille particulière qui a une double nature, une nature démoniaque. Gainsbourg utilise le terme pisseuse pour décrire cette créature. Et Nelly Arcan utilise « schtroumpfette » pour décrire sensiblement la même chose. J'ai choisi d'utiliser « nymphe » pour faire référence au cycle de vie des insectes et à la mythologie, pour bien souligner que la nymphette n'est pas une créature humaine et qu'elle n'a rien à voir avec les fillettes sur lesquelles elle est projetée. Évidemment, le sujet de conversation étant ce qu'il est, il y a un genre de « content warning » généralisé pour l'épisode. Si vous avez la moelle, écoutez-le. Généralement, il ne va pas y avoir de description graphique de quoi que ce soit, mais c'est trois œuvres provocantes à leur façon, donc c'est à prendre en compte. Et aussi, évidemment, ben moi j'ai ma position située dans tout ça, puis j'ai jamais vraiment prétendu faire de la recherche objective. Mes opinions vont transparaître assez clairement, là, je vais être vraiment transparent par rapport à ce que je pense dans toutes ces complexités parce que je trouve ça pas facile de think through la question de l'inceste et de sa représentation. J'ai pas toutes les réponses. Puis je suis survivant d'abus sexuels à l'enfance moi-même, mais pas d'inceste. Donc, il y a des limitations aussi à ma perspective sur cette question-là. J'ai même pas de père, tu sais. mon rapport à la figure du père est vraiment assez abstraite, en fait, et purement symbolique, ce qui fait que c'est assez... ce qui fait que c'est intéressant de se pencher là-dessus, mais juste être franc par rapport à ça. Alors, sans plus tarder, voici le résultat d'un processus de recherche qui a pris plusieurs mois... qui a parfois été vraiment pénible et glauque et assez obsessionnel. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. En 1955, Vladimir Nabokov publie Lolita. immédiatement, ça fait fureur, ça sold out. Tout le monde se pitch dessus, tout le monde veut le lire. Et évidemment, ça fait un peu scandale, ça fait du bruit. Public et critique généralement s'entendent pour dire que c'est un très bon livre qui est bien ficelé, bien construit, intelligemment écrit. C'est considéré comme un chef-d'œuvre. Beaucoup d'artistes vont le nommer comme une inspiration majeure de leur travail. D'autres artistes vont même en faire partie intégrante de leur œuvre, comme Lana Del Rey ou Serge Gainsbourg. Mais c'est aussi, malheureusement, un livre qui est très souvent mal compris et interprété de plus d'une façon qui sont certainement dommageables. Et l'héritage légué par Lolita, les conséquences au suite de sa publication sont extrêmement complexes. Donc moi, je vais pas plonger trop profondément là-dedans aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, il y a un vraiment bon podcast investigatif en 10 épisodes qui s'appelle le Lolita Podcast. De mon côté, je vais vraiment me pencher sur la figure qui est dépeinte et exacerbée dans le roman de Lolita sans jamais être inventée par Nabokov. Donc, Lolita n'est pas la première Lolita. Mais elle vient mettre un nom, pas un visage, un nom sur le mythe. Et Humbert, à son tour, vient mettre un nom et une parole sur la figure de celui qui obsède sur la figure de la nef. Personnellement, je déplore la façon dont on a détourné le travail de Nabokov pour lui faire dire exactement le contraire de son intention, finalement. Parce que, bon, c'est pas mon rôle d'interpréter les intentions de l'auteur, d'autant plus que Nabokov a une écriture qui n'est pas éducative ou pamphlétaire, tu sais, qui ne donne pas tout cul dans le bec, qui laisse beaucoup de place au lecteur pour faire son propre travail de lecteur. Mais ceci étant dit, ça m'apparaît assez évident pour quiconque est capable de lire et un minimum de second degré que ce n'est pas un roman qui fait l'apologie de l'abus d'enfants d'aucune façon. Tu sais, c'est un livre complexe qui a la caractéristique d'être narré par l'abuseur qui plaide à un jury réel ou imaginé qui fait un peu une espèce de campagne de marketing, de PR pour vendre sa salade. Et c'est un test pour le lecteur, en fait, qui doit décoder tout ce qui est présenté de la perspective seule de Humbert dans son langage élaboré et riche en images et en sensations. Et c'est à nous, en fait, de rapiécer les pièces du puzzle ensemble et de prendre une décision. Donc c'est presque une espèce d'exercice moral et qu'est-ce qui perdure là qui fait que le roman a une telle pérennité et un tel impact encore aujourd'hui c'est à quel point on a échoué le test culturellement, à quel point on a échoué le test et ça me fascine. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Je vais revenir là-dessus plusieurs fois dans la prochaine heure, mais je veux vraiment vous inviter à réfléchir, non pas à Humbert ou à Gainsbourg, ou comme des cas individuels qui sont exceptionnels, qui sont exemplaires, qui sont extraordinaires. Et en fait, de réaliser que c'est juste des manifestations de quelque chose qui est préexistant dans notre tissu social, tu sais. Puis en fait, c'est pas anodin que j'ai choisi trois auteurs blancs, tu sais. Je pense qu'il y a une réelle connexion à faire entre ce que Dorothée Ducey appelle le berceau des dominations, c'est comme ça qu'elle appelle l'inceste, c'est le lieu où on apprend nos rôles dans l'écrabouillement, Et finalement, ce qui cimente ces rôles de bourreau et ou martyr, tu sais. Puis je trouve ça intéressant comme suggestion. Parce que oui, effectivement, je pense que c'est une domination fondamentale qui n'est pas l'origine du mal, mais qui, avec toutes les autres formes de domination fondamentale, qui exemplifie le mal, le met en image, le met en pratique. Donc, récemment, à la recommandation de quelqu'un qui savait que je faisais une recherche sur Lolita, j'écoute un épisode de France Culture qui s'appelle Écrire l'amour, la première rencontre. Et dans cet épisode, on entend deux auteurs décrire Lolita comme leur roman d'amour favori. Dire que c'est le plus grand roman d'amour du XXe siècle, le dernier grand roman d'amour du XXe siècle. Et ça, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de pas défendable. Encore une fois, c'est une erreur de lecture. C'est une incapacité à comprendre ce qui est dit dans le texte, dans la matière première du texte. Donc, je pense qu'on a tendance à s'accrocher fétichistiquement à des images et projeter le sens qu'on veut y voir. Mais quand vraiment on se penche sur le texte, c'est très clair que ce n'est pas un roman sur la romance, l'amour, ni même la sexualité. C'est un roman sur la violence. C'est un roman sur la violence. Tu sais, je vais vous donner des spoilers, mais en gros, c'est un dude qui devient obsédé avec une jeune fille de 12 ans. Sa mère meurt dans des circonstances très louches. Il kidnappe Dolores Hayes, la jeune fille. Il l'amène en road trip à travers les États-Unis. Il la viole dans chaque hôtel dans lequel il se trouve. Et il se convainc que c'est une relation. Il se justifie par tous les moyens de continuer à violer Dolores. Tu sais, c'est ça l'histoire. Donc là, j'ai décidé de vous lire quelques passages juste pour vraiment. Souvent, j'ai l'impression qu'on veut lire les espèces de descriptions lyriques que Humbert Humbert fait du corps et des ébats qu'il a avec celle qu'il appelle Lolita. Mais j'aimerais bien vraiment lire les passages où ça m'apparaît clair qu'il est complètement manipulateur, violent, abusif, et qu'elle n'a pas envie d'être là.
Look here, though. Let's settle this once for all. For all practical purposes, I am your father. I have a feeling of great tenderness for you. In your mother's absence, I am responsible for your welfare. We are not rich, and while we travel, we shall be obliged. We shall be thrown a good deal together. Two people sharing one room inevitably enter into a kind of, how shall I say, a kind of... The word is incest, said Lo, and walked into the closet. Finally, let us see what happens if you, a minor, accused of having impaired the morals of an adult in a respectable inn, what happens if you complain to the police of my having kidnapped and raped you? Let us suppose they believe you. A minor female who allows a person over 21 to know her carnally, involves her victim into statutory rape or second-degree sodomy, depending on the technique. And the maximum penalty is 10 years. So I go to jail. Okay, I go to jail. But what happens to you, my orphan? Well, you are luckier. You become the ward of the Department of Public Welfare, which I am afraid sounds a little bleak. A nice grim matron of the Miss Phelan type, but more rigid and not a drinking woman, will take away your lipstick and fancy clothes. No more gadding about. I don't know if you have ever heard of the laws relating to dependent, neglected, incorrigible, and delinquent children. while I stand gripping the bars, you, happy, neglected child, will be given a choice of various dwelling places. All more or less the same. The correctional school, the reformatory, the juvenile detention home, or one of those admirable girls' protectory, where you knit things and sing hymns and have rancid pancakes on Sundays. You will go there, Lolita, my Lolita. This Lolita will leave her Catullus and go there, as the wayward girl you are. In plainer words, if we two are found out, you will be analyzed and institutionalized, my pet. C'est tout. You will dwell, my Lolita will dwell. Come here, my brown flower, with 39 other dopes in a dirty dormitory. No, allow me, please. Under the supervision of hideous matrons. This is the situation. This is the choice. Don't you think that under the circumstances, Dolores Hayes had better stick to her old man? By rubbing all this in, I succeeded in terrorizing Lo, who, despite a certain brash alertness of manner and spurts of wit, was not as intelligent a child as her IQ might suggest. But if I managed to establish that background of shared secrecy and shared guilt, I was much less successful in keeping her in good humor. L'information qui a vraiment cimenté mon impression que Lolita est un grand livre, un livre important qu'il ne faut impérativement pas censurer, qu'il faut plutôt replacer dans son rôle, de le dévier de sa fonction pour valoriser ce qui finalement le livre critique. C'est le fait que Nabokov est un survivant d'abus sexuels dans l'enfance de la part de son oncle. Et en fait, ça, quand j'ai appris cette information-là, j'ai eu un soupir de soulagement parce que ça a dissipé en fait les quelques derniers malaises que j'avais finalement à la lecture du livre qui pourtant m'avait énormément plu, qui m'avait apparu extrêmement drôle et extrêmement intelligente. Et s'il y a bien un artiste qui excelle lorsqu'il est question de dévier Lolita de sa fonction, c'est Serge Gainsbourg. Flash forward en 1971. Serge Gainsbourg publie son album concept. L'histoire de Melody Nelson. C'est un album qui prend 9-10 mois à concevoir, un peu comme un enfant, et plus d'une centaine de musiciens. L'album est un échec commercial à sa sortie, mais devient culte avec le temps. Et c'est généralement un album qui marque les esprits, qui est d'une... À vrai dire, pour être totalement franc, d'une incroyable qualité en termes de composition et d'arrangement. Et c'est un hommage à sa muse et sa compagne pendant 10 ans, Jane Birkin. Il dit qu'il a eu envie d'écrire quelque chose de très bien et qu'elle aimerait. Il dit aussi que c'est un genre de cadeau pour leur futur mariage et leur futur enfant. Parce que oui, au moment de photographier la pochette de Melody Nelson, où figure Jane Birkin, on peut voir qu'elle est enceinte. Derrière son toutou, sa peluche d'enfance, elle cache un ventre, un petit ventre, parce qu'elle est enceinte de Charlotte Gainsbourg. Malgré sa qualité sonore indéniable, malgré son contenant extrêmement sophistiqué, l'histoire de Melody Nelson offre un contenu qui romantise l'abus sexuel dans l'enfance. Melody a 14 automnes et 15 étés lorsqu'elle se fait frapper par la Rolls-Royce de Serge Gainsbourg, le narrateur. Après avoir joué à Dada, Melody se retrouve dans un hôtel particulier avec Gainsbourg, où il la viole pour la première fois. Un rappel évident à Lolita. À la différence que le cynisme, l'ironie et tout le glauque contenu dans Lolita est absent des chansons de Melody Nelson. Donc on a vraiment affaire à des sonorités sulfureuses et à la prétention de la séduction.
On retrouve évidemment aussi beaucoup de racisme, particulièrement dans les chansons L'Hôtel Particulier et Cargo Culte. Il est à noter qu'on retrouve des motifs racistes dans Lolita et dans Putain aussi. Dans le tout dernier album de Gainsbourg, Une monstruosité au nom de You're Under Arrest, on retrouve une autre de ces itérations de Lolita, Samantha, elle aussi très jeune adolescente et femme noire. Donc, je mentionne ça juste pour souligner qu'au travers de la discographie de Gainsbourg, le leitmotiv principal est la figure de Nine-Neve, un espèce d'hommage répétitif à Nabokov, puisqu'il l'admet lui-même, il a une obsession avec
Lolita. Il avait 14 ans!
Lolita.
Mais il y a aussi énormément de racisme. Donc, plusieurs de ses chansons ont été copiées sans crédit d'artistes africains. Notamment Pauvre Lola, dont l'air en fait était écrit par Myriam Makeba, sans qu'aucun droit d'auteur ne lui ait été payé, ni crédit ne lui ait été donné. C'est d'ailleurs dans Pauvre Lola qu'il fait le plus explicitement référence à Lolita. En fait, c'est une chanson qui invite une très jeune nymphe à se laisser avoir, se laisser emporter, se laisser séduire. Il y dénote par quelle stratégie il compte obtenir ce qu'il désire.
Il est des mots tendres qu'elle aime entendre. Tendre Lola, oui, quelques mots tendres devraient attendrir Lolita.
Interviewé en 1968 par Lina, Gainsbourg se voit demander qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le fascine chez Lolita. Et lui de répondre qu'il n'est absolument pas intéressé par Lolita, parce que Lolita, c'est une petite conne, et que ce qui l'intéresse, c'est Humbert Humbert. L'intervieweur lui répond « C'est très beau, cet amour. Je crois que l'impureté, elle n'est pas dans Humbert Humbert, c'est dans le lecteur. » Gainsbourg de le couper, mais il n'y a pas d'impureté. C'est un livre très pur. Et ici, j'aimerais croire qu'il a saisi l'espèce de fable morale que Nabokov propose. Mais j'en doute. Je pense qu'il nous avoue ici que tout comme ses contemporains français, il se sent connecté à Humbert Humbert et son obsession. Il cherche lui aussi à se convaincre lui-même et à convaincre son jury, c'est-à-dire son public, de la pureté de ses intentions. Il y a beaucoup de choses en commun entre Gainsbourg et Humbert Humbert. Dans les deux cas, on trouve un homme malade, pathétique et obsessionnel qui est élevé culturellement au rang d'icône, d'inspiration, de anti-héros. Donc, c'est des personnages qui sont relatable, des relatable villains en quelque sorte. On retrouve aussi chez eux une plume acérée, particulière, reconnaissable parmi toutes les autres, et un hyper focus sur la figure de la nymphe qui se trouve exprimée au travers de cette écriture. Mais Gainsbourg ne fait pas apparaître Lolita qu'en symbole et en abstraction. En 1966, la jeune naïve et candide France Gall a à peine 18 ans lorsqu'elle enregistre Les Sucettes, écrite et composée par Serge Gainsbourg pour elle. Il faut savoir que France Gall a un casting de petite blonde naïve, fraîche et candide, une image que l'industrie manipule à son avantage, exploitant de ce fait sa tendre innocence. Gainsbourg s'en donne à cœur joie.
C'était ce qu'il imaginait, je crois, de moi, et c'est ce qu'il avait envie de dire. Et il avait raison, parce que c'était pas forcément intéressant de parler de moi, de ce que j'étais, mais plutôt de ce que je projetais.
Les Sucettes est sans équivoque une chanson sur la fellation. Mais France Gall, à l'époque, probablement vierge, ne s'en rend pas compte. Elle chante Les Sucettes en croyant réellement que Annie s'achète des sucettes au drugstore. Et pendant 6 mois, elle fait sale comble et tout le monde l'applaudit en riant lorsqu'elle chante cette chanson. Mais il s'avère qu'on s'est joué d'elle, qu'on lui a menti et qu'on lui a fait jouer ce rôle sans son consentement.
Et ensuite, quand je l'ai appris, ben j'ai eu la honte absolue. Je restais chez moi enfermée. Ça m'a vraiment rendu mal. J'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière par les adultes autour de moi.
La nuit. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur de choses heureuses.
Je l'aurais jamais faite cette chanson si j'avais vraiment, si on m'avait expliqué le sens. Mais ça m'a incroyablement blessée. Ça m'a plus que blessée. Ça a changé mes rapports avec les garçons. Je voyais tous des êtres lubriques derrière les garçons, les hommes. Ça m'a fait un choc terrible qu'on ait pu penser que... Donc c'était insupportable pour moi, mais je ne suis pas sortie pendant des mois après ce disque. Et je vais...
Allez, formidable.
Ah, c'est ça, merci.
Allez, non, mais je le pense vraiment.
Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses.
Elle a ce point... Rien compris à ce texte, c'est qu'elle a dit à quelqu'un ces derniers temps, pourquoi, qui lui demandait pourquoi elle ne changeait pas les sucettes, elle a dit c'est plus de mon âge.
Je vois aussi l'apparition d'un pauvre Lola, parce que Gainsbourg enregistre son rire sans son consentement, pour l'utiliser dans un énième hommage idiot à Nabokov. Sa stratégie, il l'utilise des décennies plus tard, pendant les années 80, avec Love on the Beat, où il enregistre sa partenaire Bambou pendant une de leurs relations sexuelles sans son consentement, incluant ses cris et gémissements dans la très mauvaise chanson Love on the Beat, qui se veut un très mauvais jeu de mots entre beat et bit. C'est en disant ces choses-là à haute voix, puis en lisant à répétition les paroles de ces chansons, que je me frappe à un mur. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on parle de Serge Gainsbourg? C'était le plus grand parolier et poète de l'histoire de la France, là, tu sais, je veux dire... À plusieurs égards, c'est un ego qui fait des blagues de cul. C'est un bro comme un autre, là. Un bro qui a beaucoup de charisme et le sens du verbe, tu sais. Mais je me demande, tu sais, est-ce que ce serait pas le temps de débuzzer de Gainsbourg? Est-ce que ce serait pas le temps d'écouter autre chose? Moi, ça me déprime qu'on connaisse rien de Isabelle Maillereau ou de Priscilla ou de toutes les super musiciennes des années 70 qui ont été complètement oubliées, mais qu'on rabâche année après année à quel point Gainsbourg est un génie. Est-ce qu'on peut juste move the fuck on, genre? Il n'y a pas eu que France Gall, il y a eu d'autres nymphes dans la vie à Serge Gainsbourg. Les années 80 marquent définitivement la déchéance de Gainsbourg. Il se fait finalement dompter par Jane Birkin après 10 ans de vie commune tumultueuse. Ses albums deviennent de plus en plus chaotiques et franchement mauvais. Et c'est dans ce contexte assez misérable qu'il vit ce que les médias appellent une histoire d'amour avec Constance Meyer, qui a à ce moment-là 16 ans, et Marie-Marie, qui a à ce moment-là 19 ans. Toutes les trois ont écrit sur leur relation avec Serge Gainsbourg et en gardent généralement un bon souvenir. Donc je peux pas me permettre d'appeler leur relation de l'abus, a fortiori vu que sa rencontre avec Constance Meyer est, selon la loi française, légale. Donc en France, l'âge de consentement, c'est 16 ans et il n'y a pas de limite d'âge. En 1984, Gainsbourg sort... peut-être la chanson la plus controversée de toute sa carrière, Lemon Incest, en duo avec sa fille Charlotte, alors âgée de 13 ans. Je me souviendrai toujours du moment, je devais avoir quelque chose comme 9-10 ans, j'écoutais M6 avec ma cousine, chez mes grands-parents. On tombe sur une émission de type Musimax, où Robert Smith de The Cure nous montre ses clips préférés. En première place trône Lemon Incest. C'est vraiment un clip et une chanson typiquement 80s, mais avec un sens de la provocation que personne, à cet âge-là, je n'avais jamais vu et que depuis, j'ai de la misère à rivaliser. Charlotte et Serge sont au lit, ensemble, dans un grand lit. Charlotte ne porte pas de pantalon, elle porte la chemise de son père, qui, lui, ne porte pas sa chemise et ne porte qu'un pantalon. Leurs vêtements évoquent deux amants qui se sont rhabillés vite fait après des ébats. On voit Charlotte s'amuser avec un polochon, l'éventrer et faire volter les plumes un peu partout dans la pièce. S'accrocher à la cuisse de son père qui se tient debout à ses côtés. Et on entend sa délicate petite voix déclamer. Je ne sais pas vraiment par où commencer pour commenter une œuvre comme Lemon Incest, mais je pense qu'elle parle par elle-même. Je pense que c'est un morceau qui est très fort, très marquant et très évocateur, et qu'on peut en tirer nos propres conclusions. Deux ans plus tard, en 1986, il lance un deuxième projet mettant en vedette Charlotte, l'album et le film, tous deux nommés Charlotte Forever. Charlotte Forever est comme une longue lettre d'amour torturée à sa fille avec énormément de suggestions de tensions sexuelles. Toutes les chansons sont chantées en duo et on les retrouve comme bande sonore du film écrit et réalisé et joué par Serge Gainsbourg. Donc, un disclaimer, c'est le film le plus poche que j'ai vu de toute ma vie, je pense. Ça a été vraiment ardu de passer au travers. J'ai failli abandonner plusieurs fois. C'est très long, c'est très plate. C'est sur YouTube, si jamais vous êtes curieux. Et c'est assez hilarant, en fait, tellement c'est pathétique. C'est une période de sa vie où il est comme au paroxysme de son narcissisme, en quelque sorte. D'après Marie-Marie, son amante de 19 ans, à chaque fois qu'ils passent du temps ensemble, ils finissent par écouter ses albums ou écouter ses films à lui, en boucle. Ils n'ont jamais écouté un autre album que les siens, dans toutes leurs années de fréquentation. Et dans Charlotte Forever, on voit une espèce de... C'est comme un album un peu miroir à Melody Nelson, dans le sens où il y a beaucoup de thèmes en commun. Ça commence avec un accident de voiture. Il y a aussi plusieurs scènes assez malaisantes qui s'attardent longuement et langoureusement sur le corps dénudé de Charlotte et de son amie. Des scènes assez difficiles à regarder, où Gainsbourg brutalise sa fille. Et on sait, de par leurs deux témoignages, en fait, que ça a été un tournage extrêmement difficile, extrêmement éprouvant, où Serge en demandait trop à Charlotte. Et où, bien sûr, il était en état d'ébriété constant. Donc, quand on sait ça, ça teinte vraiment, vraiment cette œuvre-là qui vraiment est médiocre comparée à d'autres facettes de son travail. Charlotte. Que j'ai souvent vu passer pour valoriser la parole des amateurs de nymphes, tels que Gainsbourg, c'est qu'au moins ils ont le mérite d'être honnêtes. Ça, on pourrait même dire que c'est quelque chose de typiquement français. Est-ce que c'est une coïncidence que Humbert Humbert soit un prof de français spécialisé en littérature française? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la France a une histoire lourde et chargée avec la question sociale et légale de la pédophilie. tous se souviendront des deux pétitions écrites et signées en 1977 par tous les grands intellectuels de l'époque pour mettre fin à l'âge de consentement en France, alors placé à l'âge de 15 ans. Donc l'histoire de l'âge de consentement à travers le monde, et particulièrement en France, est compliquée. C'est quelque chose qui a de la mobilité historiquement. En France, c'est passé de 12 à 13, à 14, à 15, à 16. Et ça ajoute à ces complexités le fait que les rapports homosexuels soient légiférés d'une autre façon. Donc par exemple, au Québec, le consentement pour du sexe pénétratif vaginal se situe à l'âge de 16 ans, alors que pour du sexe anal, c'est à 18 ans. En France aussi, dans les années 70, l'âge de consentement pour les homosexuels est de 21 ans. Ce qui potentiellement explique pourquoi tant d'intellectuels auraient signé cette pétition, parce que dans les signataires, on retrouve Beauvoir, Sartre, Deleuze, Guattari, Foucault, je veux dire, toute la gang, là, Barthes, name it, là, sont toutes là. Et il y a quelque chose de vraiment difficile à avaler avec cette constatation-là. Il faut se rappeler aussi que à cette période-là, en Europe, dans la fin des années 70, le motto, c'est qu'il est interdit d'interdire. On avance sur les pas de la révolution sexuelle des années 60. Et la question de la pédophilie est entremêlée avec le militantisme queer. Et ça, on retrouve aussi ça aux États-Unis avec la North American Boy Love Association, qui marche à Pride plusieurs années dans les années 70, avant que leur présence ne soit interdite par des groupes queer militants. Donc, c'est assez fréquent, en fait, à ce moment-là. Ça peut paraître choquant maintenant, mais c'est tout à fait normal dans le climat français des années 70 de voir émerger ces deux pétitions. La première pétition, qui visait à libérer de prison trois hommes ayant été accusés d'agression sexuelle sur trois petits-enfants, demeure anonyme pendant plusieurs décennies jusqu'à ce que Gabriel Matzneff s'en révèle l'auteur. Donc, Gabriel Matzneff est un écrivain français assez prolifique qui a reçu plusieurs prix et qui est surtout connu pour ses journaux intimes qu'il a publiés, dans lesquels on retrouve des confessions de ses multiples expériences d'abus sexuels sur des enfants, incluant du trafic humain en Thaïlande. En 2020, Vanessa Springora publie son livre Le Consentement, dans lequel elle accuse Gabriel Matzneff de manipulation et d'abus lorsqu'elle était une mineure de 14 ans. L'année d'avant, il était réapparu de façon virale dans l'actualité grâce à une interview donnée par Bernard Pivot avec Denise Bombardier, non la moindre, notre transphobe raciste nationale. Dans cette entrevue, je dois admettre qu'elle le remet à sa place solide et se sort du débat victorieuse. Écoutons un peu comment elle présente ses arguments.
Moi, je crois que je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidences. Parce que ce que nous raconte M. Matzneff dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains,
Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une
vous Monsieur Matzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation.
Ici, Denise suggère clairement que le Québec et la France, par rapport à l'abus d'enfants, c'est deux cultures bien différentes. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour s'interroger sur cette question-là. Donc, je dois l'admettre, une figure comme Gabriel Matzneff, c'est vraiment unique dans l'histoire et ça dépend de son contexte géopolitique. Donc, ça ne pouvait arriver qu'à cette époque-là, dans ce lieu-là, dans ce contexte-là. Les intellectuels français des années 70. C'est-à-dire une culture dans laquelle l'abus d'enfants se déroule à ciel ouvert, en plein jour, sans trop de couverture. Et je dirais que c'est ça la différence fondamentale entre le Québec et la France, en ce qui a trait à l'abus sexuel dans l'enfance. Parce que statistiquement, bon, On s'entend que les statistiques dans ce domaine-là, c'est toujours des estimations très approximatives. Mais demeure que, à peu près partout dans le monde, une personne sur cinq serait victime d'abus sexuels en enfance, et donc, proportionnellement, une personne sur cinq serait abuseur. Et oui, je sais que certains abuseurs abusent plusieurs enfants, mais plusieurs enfants sont abusés par des abuseurs différents. Donc, à la fin de la journée, la statistique se balance. Cette statistique-là demeure assez stable à travers le temps et à travers les pays. Donc, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que oui, certainement, la loi est plus stricte au Québec. Donc, l'âge de consentement est de 16 ans, comme en France, mais si quelqu'un a moins de 18 ans et que son partenaire a plus de 5 ans de plus, eh bien, c'est illégal. Donc, certes, c'est vraiment facile d'argumenter qu'il y a une plus grande glorification des abus sexuels en enfance en France. Je veux dire, l'année dernière, Roman Polanski a remporté le César du meilleur réalisateur. C'est gênant, tu sais. Donc, c'est plus facile à argumenter, mais si on prend des figures publiques québécoises, Gilbert Rozon a été innocenté. Il y a des mineurs qui ont été agressés par Gilbert Rozon. Il n'a pas vécu de conséquences pour ça. Dans le mouvement MeToo aussi, il n'y a pas eu vraiment de place pour nos témoignages. Il y a eu un MeToo pour le viol, la question du viol. Mais on n'a pas parlé de tous les viols. On n'a pas suffisamment parlé des femmes autochtones, qui sont pourtant trois fois plus à risque de se faire agresser sexuellement que les femmes blanches. On n'a pas parlé des survivants d'abus sexuels en enfance. On a à peine parlé des survivants dans des contextes non hétérosexuels. Puis, I guess que notre seul sens de la rétribution, en fait, ça a été une situation comme celle de Claude Jutras. Puis, je m'excuse, ça devait être un open secret dans l'industrie, là. T'sais. Mais, par exemple, quand c'est sorti au grand jour, la seule chose qu'on a faite, c'est enlever son nom des trophées. C'est vraiment très keb comme stratégie, ça. Donc, on évite un problème. Là, quand il vient au jour, on le cache. On fait silence. Puis, évidemment, je veux pas qu'un trophée soit à son nom. C'est un peu comme il faut faire tomber certaines statues, il faut faire tomber certains trophées, tu sais. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait de ces hommes-là des cas à part, des cas exceptionnels. Guy Cloutier, Jean-François Harrison, c'est le même combat. Beaucoup d'encre a coulé là, pendant ces périodes-là. Moi, je m'en souviens, j'étais là. J'étais enfant, mais je m'en souviens. Énormément d'encre a coulé. Mais c'était un peu plus pour en faire des monstres et pour examiner les détails gore et spectaculaires de leur histoire individuelle. Il n'y a pas vraiment eu de conversation nationale sur la DPJ, le soutien aux survivants, les services de santé mentale au Québec. Il n'y en a pas eu vraiment de conversation de fond sur les réelles stratégies et solutions à notre disposition. Il y a eu scandale, potin et talk show. Donc oui, à la question, est-ce qu'il y a une différence entre la France et le Québec? Je dirais qu'il y a définitivement une plus grande normalisation de ces idées en France, à la fois dans la populace là, que dans les intellectuels et les figures publiques, dans les livres, dans les films, dans les chansons. Mais au Québec, ça se passe dans nos maisons, nos garderies, nos équipes sportives, partout, comme en France, bien que ce ne soit pas montré visiblement et publiquement. Et s'il y a bien une Québécoise qui n'a pas mâché ses mots pour aborder notre obsession bien à nous avec les nymphes, c'est Nelly Arcan. Flash forward en 2001, il y a 20 ans déjà, Nelly Arcan publie Putain, son premier roman. Le premier éditeur à qui elle l'envoie le publie immédiatement. C'est un succès fracassant dès sa sortie. Cette jeune auteure dans la vingtaine est tout de suite révélée comme une grande écrivaine. Le roman qu'on pourrait décrire comme une forme d'autofiction est une longue envolée poétique sur le métier qu'elle a exercé pendant plusieurs années, travailleuse du sexe, mais aussi sur ses parents, le suicide, la beauté, à quel point il faut souffrir pour la beauté, et sur la jeunesse et sa valeur commerciale. Je ne me perdrai pas trop longtemps en analyse de son œuvre et de ce qu'elle essaie de dire et de qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que j'ai envie d'éviter de projeter sur elle mes désirs et mes fantasmes. J'ai envie vraiment de revenir à son texte et à toute la richesse qu'il contient et de le laisser parler pour lui-même. Mais une chose que je mentionnerai, par exemple, c'est que même si d'après ses écrits, elle n'est pas une survivante, je n'ai jamais été violée sur le chemin de l'école. Même si je m'y attendais. Même si je le souhaitais. Je considère que ses commentaires, même s'ils sont extrêmement confrontants, parfois difficiles à lire, abordent avec une lucidité vraiment, vraiment rafraîchissante le fantasme culturel de l'inceste, spécifiquement celui du père vers sa nymphe, ou comme elle l'appelle, sa schtroumpfette. Je pense que j'ai jamais vraiment entendu une parole de femme décrire cette dynamique d'une façon aussi claire, aussi franche, aussi vraie. J'aimerais la remercier pour sa lucidité et pour le cadeau de son talent. Putain est un grand livre. Putain est un texte inoubliable, d'une force singulière. Et laissent-elles aussi leurs filles s'en mettre plein de la queue de leur père, de papa chéri et des oncles qui bandent qu'elles soient assises sur leurs genoux pour la faire sauter un peu, le petit galop de bonne nuit avant la prière du soir, la souplesse de la chair qui n'a pas fini de grandir et qu'on veut attraper au vol. Je n'aime pas la tournure de cette réflexion. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne peux pas comprendre. Je n'aime pas ça, mais il est sans doute préférable que je m'y accroche. Faute de connaître une réponse qui vient de toute façon bien avant la question. La vérité des bestioles et des rats, dont aucune catastrophe ne viendra à bout. La vie des égouts qui survivra à la mort. La victoire de l'instinct sur ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? Ça aussi, je l'ignore. Je ne sais que pleurer sur le cadavre de ma mère, tandis que mon père chasse les putains toujours plus. L'une après l'autre, et un jour, il tombera sur moi. Sur la chair de sa chair, dont j'ai la nausée, car elle est promise à l'oubli. Et qu'il la reprenne, cette chair, après tout. Il en a certainement plus envie que moi. Qu'il la lance à bout de bras sur n'importe quel mur, à bout de queue. Qu'il me prenne, enfin, que ça finisse. Qu'on en finisse avec cette tension de toujours entre les pères et les filles. Et comment oserait-on, pensez-vous? Eh bien, on oserait, de la même façon qu'on ose ici, dans le cadre de ma putasserie, dans cette chambre où mon père va bientôt finir par venir, oui, il viendra tôt ou tard, avec la pensée que je serai peut-être derrière la porte, et moi je lui ouvrirai, en pensant qu'il pourrait aussi s'y trouver, et chacun nous voyant là où il l'avait imaginé va être choqué de se retrouver respectivement dans le rôle de la putain et du client. Et nous allons claquer la porte en criant au scandale. Mais où va-t-on dans cette société où les filles sont putains et les pères clients? Et depuis combien de temps s'en va-t-on ainsi? Depuis toujours, je le crains. Depuis que les pères ont une queue et les filles un corps frais à offrir en partage au monde entier. Le père et la fille retournant à leur vie avec l'impression qu'un drame s'est joué. Depuis longtemps prévu, cependant. Comme une fin de siècle. Elle et lui, face à face, en pensant, je le savais. Je le savais. Et comment cette masse de putains a-t-elle pu se former ainsi, à l'insu de l'intérêt public? Comment vos filles ont-elles pu ouvrir la bouche sur le premier venu? Eh bien, elles le sont devenues sur le chemin de l'école. Vous vous rappelez? La petite jupe d'écolière que le vent soulève sur la petite culotte blanche. Elles le sont devenues dans le regard qu'on a porté sur elles. Et elles le resteront jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que la vieillesse les rattrape et les renvoie sous des draps où elles pourront longuement repenser à leur démarche de jupe soulevée par le vent, à leur vie de se déhancher. L'idée de mettre au monde une dynastie de nymphes qui soit éternellement jeune et disponible à être baisée se retrouve dans Lolita.
I could switch, in the course of the same day, from one pole of insanity to the other. From the thought that around 1950, I would have to get rid somehow of a difficult adolescent whose magic nymphage had evaporated. To the thought that with patience and luck, I might have reproduced eventually a nymphet with my blood in her exquisite veins, a Lolita II, who would be 8 or 9 around 1960, when I would still be dans la force de l'âge. Indeed, the telescopy of my mind, or unmind, was strong enough to distinguish in the remoteness of time a vieillard encore vert. Or was it green rot? Bizarre, tender, salivating Dr. Humbert, practicing on supremely lovely Lolita III, the art of being a granddad.
Se manifeste concrètement dans l'œuvre de Gainsbourg, avec la naissance de sa fille, qui est aussi sa muse, Charlotte.
J'aime quand les turbulences soient plus doux avec moi.
Je fais ce que je veux et ce que je peux. Voilà.
C'est en toute innocence que je te dis ça, papa.
Je sais de toi.
Et finit par être violemment décortiqué par Nelly Arcan.
Lorsque j'attends un client ou que le cours du matin m'ennuie, je me raconte l'histoire d'une grande famille de femmes comblée par un seul homme. Je me raconte une mère et ses deux filles, une mère qui serait la fille d'un homme et de qui elle aurait eu ses filles. J'imagine les deux filles portant l'enfant de cet homme qui serait à la fois leur père et le père de leur mère. Et les deux filles mettraient logiquement au monde de petites filles, deux chacune, elles-mêmes futures épouses de leur père. Cette femme transmettant sur trois générations la particularité d'être toutes les unes pour les autres, à la fois mère et sœur et fille. Elle formerait un clan indivisible, et leur ressemblance serait redoutable, car personne ne pourrait les différencier. Partout dans le monde, elle ferait l'objet d'un culte amoureux. Elle serait vénérée par des hommes qui se battraient entre eux pour participer de ce prodige. Pour être le prochain géniteur, le père d'une lignée de filles-épouses, de mères-sœurs. Et ce père élu par elle ne pourrait pas les reconnaître, non. Chacune gardant au fond d'elle-même le secret de l'identité de celle qu'elle aurait portée. Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça. J'aurais perdu la moitié de ma vie à me vouloir là, insérée quelque part dans cette famille où la fraternité serait une affaire de sœurs. Et qu'en pensez-vous, monsieur le psychanalyste? Faudra-t-il que ça cesse? Faudra-t-il prendre ma place parmi les autres et non prendre la place des autres? Mais comprenez-moi, je ne suis plus responsable de leur prolifération. Elles m'ont colonisé si profondément que leur disparition me viderait d'un seul coup. Mon corps réduit à ses organes, et si un jour j'ai une fille, je la baptiserai Morgane. Je fusionnerai en elle la morgue et l'organe. Je lui donnerai un nom qui porte en lui le poids de la vie et le froid de la mort. Mais ne vous inquiétez pas, car je n'aurai jamais de fille. C'est trop long, trop charnel, trop de temps à gonfler et à se contracter. Mieux vaut imaginer l'élargissement de sa personne dans ses fantasmes. Imaginez des femmes qui se multiplient d'un coup de baguette, d'une formule magique. Il faudrait pour les faire taire que je me coupe la tête, que les hommes ne se retournent plus sur les femmes dans la rue et que les femmes se défassent de leur miroir. Il faudrait qu'il n'y ait plus qu'un seul sexe, par exemple, et que toutes les femmes se suicident d'un seul coup de dégoût. Il faudrait, voyez-vous, trop de choses improbables. Je continue donc de rêver, car il faut bien, après tout, s'adapter à la réalité.
Je trouve ça fascinant que trois artistes dans trois pays différents, de trois générations différentes, en viennent à évoquer le même fantasme. Un fantasme qui apparaît initialement dans la perspective absolument immonde, mais que quand j'y réfléchis deux secondes, on le retrouve dans toutes les facettes de la culture populaire. Depuis la Bible avec Adam, Ève, Abel et Caïn, jusqu'à Game of Thrones. Oui, vraiment, au travers de Humbert, Gainsbourg et la narratrice, Nabokov, Gainsbourg et Nelly Arcan ont vraiment réussi à mettre en mots un phénomène qui nous hante. Et ça, oui, il faut que je le reconnaisse à Gainsbourg. Il aura vraiment su incarner la figure du daddy dans toute sa complexité, tout ce qu'elle provoque de désir et de dégoût. Et oui, j'ai bien peur que cet épisode laisse transparaître une certaine saveur amère. Vous m'avez entendu dire que Nabokov et Nelly Arcan sont des génies, et à répétition descendre Gainsbourg, tenter de le délégitimer, de le faire descendre de son piédestal. Ben, ce serait trop facile de vous laisser avec une conclusion simplifiée comme « lire Nabokov, c'est bien » et « écouter Gainsbourg, c'est mal ». Je suis tellement pas là pour faire la police de la culture et vous dire quoi consommer. On en a tous des problematic faves. Dans le monde de la musique rock des années 70, je m'excuse, mais ils sont tous coupables. On en a tous un qu'on garde dans notre discographie. Si c'est pas Gainsbourg, c'est Bowie. Si c'est pas Bowie, c'est Prince. Si c'est pas Prince, c'est Mick Jagger. Si c'est pas Jagger, c'est Michael Jackson. La liste est longue. Très longue. Autant je veux qu'on cesse de glorifier ces hommes-là, de toujours revenir à leur corpus comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait. Et évidemment, j'aimerais qu'on cesse de leur lancer des fleurs, des trophées, de l'argent. Mais à la fin de la journée, les deux seules questions qui m'intéressent, c'est est-ce que ça protège les enfants et est-ce que ça aide les survivants? Est-ce qu'arrêter d'écouter Melody Nelson ou Ziggy Stardust, ça va protéger les enfants et guérir les survivants? Non. Donc c'est pas une stratégie qui m'intéresse. La réelle raison pour laquelle j'ai une attitude aussi virulente et agressive par rapport à Gainsbourg, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai énormément écouté dans mon enfance et mon adolescence. Et passer au travers de ce processus de recherche qui m'a pris plusieurs mois, ça a souvent été douloureux. Ça m'a mis en colère. Ça m'a donné la nausée. Oui, j'ai fini par haïr Gainsbourg. Mais j'ai aussi fini par haïr les hommes, le milieu du cinéma, le milieu de la littérature, le milieu de la musique, la France, le Québec, j'ai fini par tout haïr. Parce que le viol est partout, parce que l'inceste est partout. Ce sentiment-là, il est partagé par France Gall.
Vous en avez voulu à Serge Gainsbourg? C'était difficile d'en vouloir à Serge. En fait, non, j'en voulais pas à Serge, j'en voulais à la terre entière.
C'est vraiment avec cette idée-là que je veux vous laisser. Ce qui m'intéresse réellement, le seul scénario dans lequel je nous imagine mettre fin aux abus sexuels dans l'enfance, c'est celui où on se responsabilise collectivement. Où on comprend enfin que l'abus d'enfant ne dépend pas de quelques pédophiles fous qui sont des anomalies de la nature, mais bien une structure de domination qui allie la violence sexuelle et la suprématie adulte, comme dans le cadre de toutes les autres structures de domination, a besoin d'agents participatifs, actifs ou passifs. Nous avons tous notre rôle à jouer pour que l'abus sexuel dans l'enfance continue de se produire. Nous sommes tous un rouage dans la machine. Et pour en venir à un point où on est capable d'accepter cette responsabilité, il faut passer par les étapes du deuil. Il faut reconnaître qu'à plusieurs moments dans nos vies, on ne soit pas été protégé ou pas protégé. Qu'on a fait violence ou qu'on n'a rien dit devant la violence. Qu'on n'a pas été écouté ou qu'on a fermé les yeux et les oreilles. Et ça, ça fait très mal. Ça prend beaucoup de temps. Je ne prétends pas y être arrivé. Mais je vous invite à m'accompagner dans ce travail-là. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Parlant de deuil, qui est la petite fille la plus connue de l'histoire de la littérature? Le troisième livre le plus cité après la Bible et Shakespeare sont les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Nom de plume de Charles Dodgson. La Alice de l'histoire est un hommage à Alice Liddell, une petite fille dont Dodgson s'éprend et avec qui il passe le plus de temps possible, la fille du directeur de l'université où il travaille. Lewis Carroll adorait prendre des photos d'enfants. Celle qu'il a prise d'Alice déguisée en mendiante lorsqu'elle avait 6 ans est très connue. Il en aurait pris plus de 3000 dans sa vie. Et 30 d'entre ces clichés montrent des enfants nus, incluant la sœur plus âgée d'Alice, Lorina Charlotte. Je ne sais pas quoi conclure de cette information, mais je trouve son obsession pour les enfants et sa prise de photos d'enfants nus louche. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je vous dis ça, c'est pas pour gâcher votre enfance. C'est encore une fois pour souligner à quel point l'abus d'enfant est partout, y compris juste là, sous notre nez. Dans notre livre favori ou notre chanson préférée, dans notre maison, dans la maison de notre voisin. On n'a pas le loisir de s'en étonner, mais on a le devoir d'y mettre fin. I could see.
Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de dollars seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Good evening and welcome to Amandla here on CQT 90.3 FM, your weekly African news and analysis show. So the Amandla team has decided to take what we would consider a well-deserved break. We're going to take the next few weeks off, but we've taken time to pull out what we consider some of the best of our programming over the last year or so. During these strange times of COVID, we nonetheless managed to pull together some interesting and relevant information. So Doug has kindly gone through our archives and pulled out pieces that we think bear rebroadcasting. So for the next 3 weeks, folks, we will be gone, and the faithful staff at CKUT will be making sure that these shows hit the airwaves every Wednesday, 7 p.m. Montreal time.
So welcome again to Amandla, CKUT 90.3. I have with me on the Zoom, Dua El Mardi. Welcome, Dua. Nice to have
thank
you back.
Thank you.
Can you hold it a little closer? Yeah.
Then, is this good?
That's excellent. And then Helden is here with us again.
Yes, hello.
Hope you're doing well in this time of COVID.
I am doing well, and good. I hope you're doing well too.
So, Dua, when we spoke, oh my gosh, I can't even remember the last time,